Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Hardy Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Louis Vira. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Jean-Louis Vira, vous êtes ancien expert comptable, mais à l'heure actuelle, vous agissez au sein de beaucoup d'associations concernant la société. Et on peut commencer déjà par celle qui vous amène aujourd'hui au micro. Donc c'est votre présence et votre action au sein de l'association des lecteurs des alternatives économiques, pour commencer. Ensuite, vous êtes aussi un des piliers de l'écologie au quotidien. Et aussi, vous êtes membre fondateur du laboratoire de la transition et aussi agissant au sein de l'association Radar d'assistance aux réfugiés. Vous êtes ici donc pour nous parler des alternatives économiques. Est-ce qu'on peut essayer de situer ce que signifient ces deux mots ?
Eh bien, alternative économique, qui est une revue, mais qui également nous interpelle dans ce contexte si difficile sur le plan économique. On voit bien qu'il faut réfléchir à de nouvelles règles du jeu, et donc ce terme est pleinement d'actualité.
Alors justement, l'association des alternatives économiques se sont basées sur quelles idées pour pouvoir se constituer ?
Ah, sur quelles idées ? Ben c'est un vaste sujet. Soyons clairs, hein, il s'agit d'une approche qui n'est pas très orthodoxe, qui est plutôt à gauche. Et donc aujourd'hui, on peut dire que les dimensions environnementales ou écologiques sont aussi importantes que les questions sociales, d'égalité, de coopération plutôt que de compétition. Bon, c'est quelques exemples pour permettre de caractériser un petit peu la philosophie générale de la revue Alternative économique.
Cette association qui est plutôt une structure de réflexion, puisqu'on parle de lecture, il y a forcément des débats. D'ailleurs, vous en avez organisé un il y a quelques semaines. Eh oui. Mais vous en préparez une seconde, oui, à l'heure actuelle, qui aura lieu le 28 avril.
Oui.
Et donc, ça sera par rapport aux utopies locales, en quelque sorte.
Oui, alors, en quelques mots, hein, parce qu'il faut parler un peu de l'auteur et du contexte général. Donc l'auteur, déjà, s'appelle Timothée Duverger. Il est professeur d'économie à Sciences Po de Bordeaux. Il travaille beaucoup avec le nouveau maire de Bordeaux, hein, pour situer un petit peu l'esprit. Et donc, son ouvrage, Utopie locale, nous interroge sur la pertinence et l'originalité de l'apport de l'économie sociale et solidaire dans ce monde qui est en pleine transformation. Et on pourra citer évidemment des exemples, des thématiques qui sont évoquées dans ces 136 pages et qui effectivement vont faire l'objet d'un débat le 28 avril.
À vos yeux, qu'est-ce qui vous motive pour justement organiser ces groupes de discussion au sein de cette thématique des utopies locales ?
Oui, alors, pour ma part, mais évidemment comme beaucoup, je suis convaincu que les réformes, les évolutions qui peuvent voir le jour, elles viendront de plus en plus de l'évolution de la conscience collective, de l'opinion publique. Et donc, il est très important de pouvoir alimenter de différentes manières la réflexion des citoyennes et des citoyens pour en faire une nouvelle conscience, en quelque sorte, que les politiques, les responsables, peuvent s'approprier ensuite. Et donc, le terrain du local, c'est évidemment aussi le thème de Timothée Duverger, le terrain local est essentiel parce qu'on est directement dans le concret, entre gens qui se connaissent, qui peuvent faire des réalisations, etc. Donc, c'est assez cohérent. Hein.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de concomitance entre les lieux urbains et celui du rural ?
Sans doute que oui, mais avec des particularités, parce qu'il est évident que le fonctionnement dans des centres urbains n'est pas le même que ici. Prenons un exemple, la nature. Autant la nature, nous, ici, dans notre biovallée, elle est à notre portée de main, quoi qu'il en soit. Même si on habite en plein centre-ville, on fait 5 minutes, 10 minutes de marche à pied, on est dans la nature. En ville, elle reste à créer. Elle reste d'autant plus à créer qu'on se pose aujourd'hui des questions comme, par exemple, la permaculture en ville. Bon. Donc, c'est beaucoup plus à réinventer sur ce terrain-là, en ville, qu'à la campagne, hein, clairement.
Et quels sont, justement, les sujets de conversation ou de réflexion qui sont liés, par exemple, aux localités du Diois, par exemple ?
Alors, c'est pas forcément plus le Diois que la Biovallée ou que d'autres régions, mais il y a des thématiques qui restent à décliner de façon concrète dans nos localités. Mais si je prends un exemple, Timothée développe pas mal sa réflexion sur ce qu'il appelle la villagisation du développement. La villagisation du développement. Grâce à l'aile marchande de l'économie sociale et solidaire. Alors ça, ça a l'air de rien, mais ça dérange un petit peu. Parce que la question est de savoir, par rapport aux valeurs émergentes que l'on doit trouver, je dirais, partout, hein, pas que ici à Die, pas que ici en Biovallée, etc., mais bien au-delà des frontières de notre pays, ce sont des approches relativement novatrice et qui dérange, la logique classique et néanmoins compréhensible du capitalisme tel qu'on le conçoit, où l'objectif à la sortie, c'est quand même de tirer le profit soit en revenu, soit en capital maximal. Alors que l'économie sociale et solidaire, ça je trouve que c'est intéressant, et plus j'avance dans la vie, plus je le crois, cet objectif de maximiser ces deux types de profits est mis à l'écart au profit du sens de l'action, du sens de la mission, et au fond, ça rejoint pratiquement ce qui est d'actualité depuis quelques années, la notion d'entreprise à mission. Et je trouve que ça s'applique beaucoup plus à l'économie sociale et solidaire qu'à l'entreprise classique qui, légitimement, peut assumer le fait de devoir maximiser son profit.
Est-ce que, par l'expérience, l'association des lecteurs alternatives économiques existe depuis combien d'années ?
Alors, l'association existe depuis, de mémoire, hein, je vous le dis de mémoire, d'à peu près une trentaine d'années. C'est resté, et c'est à noter, votre question est tout à fait pertinente, ça a été longtemps un lieu d'échange entre initiés. Et puis, il y a cette prise de conscience que l'apport en termes de réflexion d'une revue comme la Revue Alternative Économique, qui, il faut le rappeler, est quand même la seule revue économique indépendante en France, hein, quand même. Bon, eh bien, que cette réflexion intellectuelle pouvait être diffusée auprès d'un large public. Et c'est ce qui motive cette volonté d'être beaucoup plus présente dans nos régions, d'où la naissance de notre groupe local qu'on est en train de créer.
Vous êtes aussi... vous avez été partie prenante de la Biovallée.
Oui.
Vous l'êtes toujours ?
Toujours.
Et dans ce cas-là, quels sont vos contacts et vos actions communes avec ces deux organisations ?
Ah ben, j'irai les points de coopération, ils sont très nombreux. Alors, pour ma part, personnellement, j'ai été expert comptable pendant 45 ans. Aujourd'hui, je pilote un groupe de travail et d'expérimentation sur ce que je vais appeler très sommairement la comptabilité écologique, directement dans un partenariat entre BioValley et le laboratoire de la transition dont je suis l'un des animateurs. Donc voilà un premier exemple. Par ailleurs, nous avons des projets importants dont on parlera dans les mois qui viennent, de mobilisation territoriale, et également un projet très important que nous avons déposé. Nous avons répondu, pas plus tard qu'hier, à un appel à projet de l'Office français pour la biodiversité, qui est un projet très ambitieux. Eh bien, c'est le résultat de coopération au pluriel entre les associations que vous avez citées en début d'émission et BioValley et d'autres organisations comme la revue Alternative Économique qui nous apporte son concours sur le plan de la communication.
À l'instant, vous citiez ce terme de comptabilité écologique. Est-ce que vous pouvez nous définir et aussi quels sont, sur quel domaine ce type de comptabilité se penche ? Est-ce qu'il est beaucoup plus vaste que celui de la simple comptabilité économique ?
Beaucoup plus vaste. Beaucoup plus vaste. Et en fait, le terme comptabilité ne va pas du tout parce que certes, on va comptabiliser aussi bien des euros, des valeurs, que des quantités de CO2, de volume d'eau, de kilowatts, etc. Donc, il y a un côté comptable au sens de compter des quantités ou des valeurs, mais ça va au-delà parce que ça passe en revue les valeurs clés, en quelque sorte, ou les nuisances clés, hein, bien entendu, que génère l'entreprise, et sur lesquels on va mettre en place un système de suivi pour que l'entreprise puisse mesurer les progrès qu'elle fait pour être l'entreprise de demain, hein, dans un contexte où il faut aborder le climat, la biodiversité, la qualité sociale et sociétale, la place de l'entreprise dans son milieu. Hein. Et pour nous, dans un territoire comme le nôtre, qui est composé presque exclusivement de petites et moyennes entreprises, eh bien, nous devons trouver une méthode qui soit praticable à faible coût, à faible difficulté par le plus grand nombre de ces petites et moyennes entreprises.
Est-ce que vous êtes dans la réflexion de produire des nouveaux outils, justement, de gestion en fonction de l'importance de l'activité qui serait sollicitée, par exemple ?
Oui, c'est en préparation. Je pense que nous allons expérimenter, nous avons déjà expérimenté, mais on va élargir l'expérimentation. Et disons qu'en 2022, en gros, on sera capable de présenter une méthode, une boîte à outils qui aura été expérimentée grandeur nature.
À l'heure actuelle, cet outil donc, où vous êtes sur sa création, est-ce que vous n'avez pas trouvé justement une alternative officielle ou légale existante au point de vouloir justement créer cet outil ?
Alors, c'est une discipline qui est en pleine effervescence. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas les seuls. Hein. Moi, je travaille évidemment avec d'autres experts comptables sur, on va dire, la France entière, façon de parler. Mais il y a actuellement tout un foisonnement d'initiatives dont on peut pronostiquer qu'il y aura des convergences, des recoupements, il y aura une mise en ordre. Mais cette phase d'expérimentation tous azimuts est certainement nécessaire et constructive.
quelles sont les places des collectivités locales autour de votre démarche ?
Vous parlez de la démarche pour les...
Au sein de cette association des lecteurs alternatives économiques et puis aussi de cette prévision de réunion du 28 avril. Est-ce qu'il y aura une part de représentation des collectivités locales dans ces débats ?
Bonne question. Bien entendu que nous avons des liens avec les collectivités locales et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je recevais le soutien officiel et de la mairie d'Audy et de la communauté de communes d'Audy sur un projet important qui va voir le jour. Et donc, ça traduit bien cette volonté de dialogue. Cela étant, pour répondre à votre question par rapport à une réunion comme celle-ci, ou d'ailleurs, par rapport à une manifestation importante comme les rencontres de Di et de la Biovallée, je dois dire que je trouve dommage que les élus locaux ne soient pas plus curieux de l'apport, de l'inspiration qu'offrent des manifestations comme celle-ci. Si je vais le dire un peu crûment, je ne les trouve pas assez présents, nos élus locaux. Ils ont leur institution, je suis conscient qu'ils ont une grosse charge. Néanmoins, malgré tout, il faut venir également découvrir. Et c'est vrai que nous agissons, nous les associations, pour apporter de l'information et de l'inspiration.
Il semblerait qu'il y ait un manque, peut-être, entre ces collectivités locales et puis des associations qui désirent aussi changer les choses, en quelque sorte. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un secteur d'activité, justement, pour lier ces deux entités ?
Oui, absolument. Je voudrais citer en exemple ou en suggestion deux choses. La première... c'est que sur un projet un peu emblématique qui va concerner, entre autres, les collectivités territoriales, il faut absolument exploiter ce genre de circonstances pour renforcer le dialogue constructif entre ces différents partenaires. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose... c'est que quand même nous avons ici dans la vallée de la Drôme, donc en Biovallée, une structure qui est exemplaire pour le dialogue entre les différentes parties prenantes. C'est l'Association des acteurs de la Biovallée, parce qu'il y a quatre collèges. Il y a un collège des habitants, il y a un collège des entreprises, il y a un collège des associations et il y a un collège des collectivités. Et ils se retrouvent tous en conseil d'administration, ils se retrouvent tous en Assemblée générale, ils se retrouvent tous sur des projets. Donc, franchement, on a là une organisation qui est tout à fait exemplaire, modèle. Donc, ça mérite d'être observé.
Qu'est-ce qui a motivé cette constitution de ce débat, par exemple, du 28 avril ? Quelles sont, à vos yeux, les problématiques auxquelles vous auriez envie de remédier ? Sur le Diwa notamment.
C'est de toute façon le souci général que nous avons, que je vais qualifier de manière un petit peu brutale, c'est que je dirais la situation est grave. Elle est très grave. On le sait, on en parle partout. On parle du climat, on parle de la biodiversité, on parle d'une économie fragilisée. Le Covid nous en a donné un exemple, mais qui pourrait être qu'un prélude faible par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc la situation est grave. Alors, il y en a qui nous disent « vous êtes des oiseaux de mauvais augure, vous sapez le moral, etc. » Oui, c'est vrai. Mais j'ajoute tout de suite, et on se fait traiter à l'occasion de pessimistes. Et c'est là où je tiens à préciser, non, nous ne sommes pas des pessimistes. Au contraire, nous sommes des optimistes. Pourquoi ? Parce que nous pensons que si on se bouge, collectivement, on est capable de faire face à des situations difficiles. Nous, on y croit. Donc, c'est bien ce message optimiste qui doit prévaloir. Hein. Et c'est tout le cœur d'actions qui sont évidemment très ponctuelles. On va parler de ces initiatives, de ces solutions écologiques et solidaires au niveau du local, qui peuvent être qualifiées d'utopiques par rapport à un certain contexte, mais qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Et dans ce cadre-là, c'est qu'on a besoin de la multitude de ces contributions pour que ça finisse par faire un phénomène d'ensemble. Et donc, comme nous y croyons et que nous souhaitons encourager le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens, eh bien, par des actions comme celle-ci, comme avec les rencontres de Die et de l'écologie, nous tâchons d'entraîner les personnes et les institutions dans cette démarche.
Oui, vous citez donc Écologie au quotidien,
hein,
qui donne un rendez-vous tous les fins d'hiver depuis une vingtaine d'années,
oui,
au moins. Hein.
Oui.
Et puis, vous avez aussi ce laboratoire de la transition. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu son activité?
Alors, le laboratoire de la transition, c'est une petite organisation que nous avons créée avec le professeur de Scuter, qui est par ailleurs rapporteur spécial à l'ONU, donc un personnage très important. On a créé ce laboratoire pour que nous ayons un lieu d'échange entre des chercheurs, des intellectuels, des académiciens et des acteurs de terrain. Non pas pour que la bonne parole aille des intellos aux acteurs de terrain, mais pour qu'il y ait cet échange qui vienne nourrir la réflexion également de la réflexion académique. Et donc, à partir de là, nous menons des expériences de terrain. Par exemple, l'année dernière, on a fait une enquête auprès des élus locaux sur la manière dont ils pouvaient envisager des scénarios de dégradation, certains parleront d'effondrement, mais ça a été très intéressant parce que ça a permis de voir comment ils réagissaient. Et donc, on alimente une réflexion qui alimente elle-même les chercheurs, qui ensuite nous alimente. Donc, c'est le cœur même du laboratoire. Cela dit, le laboratoire est vraiment un acteur de terrain. Il est complètement partenaire, on peut dire ça, de l'association des acteurs de la Biovallée, d'écologie au quotidien et d'autres dans le montage, le pilotage d'opérations ambitieuses.
Qu'est-ce que le public peut observer justement dans votre action sur le territoire ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été très public, mais en tout cas, les élus locaux en ont eu connaissance. Je parlais il y a un instant de cette fameuse enquête. Il y a un résultat tangible, visible. Nous n'avons pas de site internet au laboratoire. Donc, effectivement, ça nous handicape un petit peu. On va en parler par ricochet sur d'autres sites, mais le laboratoire lui-même n'a pas de vitrine. Également, ce qu'on peut voir, c'est que, certes, c'est un peu prétentieux de ma part, parce que j'ai été le rédacteur de l'ouvrage qui a été publié l'année dernière, notamment sous ma signature, dont le titre était « Nanti-sceptique, devenez écolo ». Et changer le monde, vous aussi. Et donc, c'est le fruit d'un travail collectif, de réflexion, de mise en forme de certaines écoles, de certains courants de pensée, de certaines expériences, qui nous a paru pouvoir inspirer utilement nos concitoyens, et en particulier les plus aisés, qui feraient bien de prendre conscience que s'ils n'apportent pas une contribution à la hauteur de leurs moyens, comparativement, je dirais, aux personnes de conditions modestes, non seulement, bien entendu, c'est défavorable aux personnes de conditions modestes, mais c'est pratiquement handicaper toute solution dont ils ont besoin eux-mêmes pour faire face aux dégradations du monde dans lequel on est. Donc, c'est très opportuniste, à ce que je dis. Il n'y a pas que ça. Mais pour pousser un peu les choses, on peut être cynique jusque-là, quoi.
Vous parlez de transition. On peut préciser dans quel domaine est-ce que c'est dans l'agriculture, dans le quotidien, dans la voirie, dans le transport comment vous amenez dans cette démarche ?
Alors moi, je crois qu'on est... pour parler de transition au sens où nous l'entendons et où je l'entends, et c'est très dérangeant, la transition, elle devra être forte. Il va falloir modifier nos façons de vivre de façon très, très profonde, très, très bouleversante. Ça veut dire abandonner une bonne partie des énergies fossiles. Là, je pourrais faire nuancer en disant que si on avait la sagesse de réduire nos consommations, on pourrait peut-être s'autoriser à un peu d'énergie fossile et ça rendrait bien service. Mais donc, on voit bien que l'utilisation des énergies, la place de la voiture, la manière d'habiter, la manière de vivre ensemble, c'est-à-dire de cohabiter sur place dans la convivialité, je dirais, villageoise, plutôt que de faire des grands voyages lointains individualistes, il faut qu'on retrouve des formes de vie sympathiques en local. Voilà, je pourrais prendre un certain nombre d'exemples, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que je pense que par rapport à nos modes de vie matérialistes et consuméristes, nous n'avons pas le choix. Si on n'accepte pas de les remettre en cause en profondeur, eh bien, nous irons probablement à la catastrophe.
Aurélien Barreau, justement, dit que cette transition ne se fera pas sans violence dans notre petite vie quotidienne. Vous êtes de cet avis, je suppose. On peut en marquer, d'ailleurs, un avant-goût, c'est cette obligation de vivre qu'on a depuis le Covid est présent.
Absolument. Je crois qu'on peut parler de violence. Alors, il y aura les petites violences et les grandes violences. Les petites violences, c'est le Covid, par exemple. C'est qu'on se violente aujourd'hui par des modes de fonctionnement, de vie sociale, pour arriver à se dégager de l'emprise de la pandémie. Ça, c'est pour moi, c'est de la petite violence. La grande violence, malheureusement, c'est si on ne fait rien ou si on ne fait pas assez. Parce que, si vous voulez, on va avoir un développement des pandémies, on va avoir des catastrophes économiques, on va avoir des affrontements violents entre catégories sociales. On en a senti les prémices avec les Gilets jaunes, par exemple. Ça peut générer des guerres, ça générera des morts. Et donc, clairement, et là, c'est pas un avis, c'est mon avis personnel, mais c'est l'avis de tous ceux qui prennent le temps de réfléchir, c'est que si nous ne faisons rien, nous allons tout droit à la violence. Le monde changera, mais dans la violence et dans le chaos.
Alors, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il y aurait à faire ?
Dans l'immédiat, je pense que c'est évident qu'on ne passe pas du blanc au noir du jour au lendemain. On est dans une vie en société, entre nous. On peut faire évoluer nos comportements. Mais, il me semble très important d'arriver à ce qu'il y ait progressivement des consensus pour vivre progressivement autrement. Alors, quand je dis en société, ça peut être en famille. Je vais donner un exemple tout bête. Vous êtes avec votre conjoint et vos enfants, vous voulez partir en vacances. Bon. Le schéma classique jusqu'à aujourd'hui, c'est on prend la voiture, on part en vacances. On peut se poser la question, et en tout cas, moi, c'est mon cas, de dire « je ne vais pas prendre la voiture, je vais prendre le train ». Et donc, là, encore faut-il que toute la famille soit à peu près d'accord. Et là, ce n'est pas toujours aussi simple, parce qu'il y en a un qui va dire « oui, mais alors, je ne pourrais pas emporter tel ou tel truc, il va falloir se contenter d'une valise par chacun ou d'un sac à dos pour chacun ». Bon, eh bien, c'est un peu tout ça que nous avons à réinventer. Alors, sur le plan des transports, sur la façon d'habiter, sur la façon de travailler, on le voit avec le télétravail, parce que là aussi, on a des évolutions. Bref, dans toute une série de domaines, c'est vrai sur le plan alimentaire, c'est vrai sur le plan vestimentaire. Bon, on pourrait effectivement faire une liste, mais clairement, on voit bien que tout est à changer.
Là, actuellement, nous sommes dans une ère de dématérialisation administrative et même culturelle, puisque tout est numérisé. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut aussi envisager des vacances dématérialisées ?
Moi, je ne le pense pas. La technologie, elle a ses vertus. à condition de l'utiliser à bon escient. Parce que quand vous voyez tous les ordinateurs de bord qu'on met dans les voitures et de l'électronique partout, on peut se poser la question de la sélectivité qu'on doit avoir sur la technologie. De la même manière, on le voit bien, il y a quand même une certaine maltraitance de l'administré, au sens large du terme, avec une technologie qui s'impose à tous, quel que soit le niveau culturel. Tout ça pour dire que, certes, ce sont d'excellents instruments, mais ils ne sont pas les seuls. Et l'humain, le direct, le matériel, le concret, doivent trouver leur place dans cette évolution. Si on prend l'actualité actuellement, les apéros virtuels, c'est peut-être moins mal que pas d'apéro du tout. Mais franchement, il n'y a pas photo. On préfère 100 fois un vrai apéro à pouvoir se faire des bises ou des caresses que de faire ça à distance. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses.
Je reviens un peu aussi sur un aspect que vous proposez dans votre ouvrage que vous avez présenté sur l'antiseptique, oui. Devenez écolo. Vous abordez un passage qui concerne le transhumanisme. Et le machinisme totalitaire. Oui. Est-ce qu'on peut-être parler un peu de cette idée du transhumanisme ? Qu'est-ce que vous y voyez, vous, à l'heure actuelle ?
Alors, beaucoup de choses, hein. On va faire bref. Mais pour moi, on a une véritable menace, notamment si on continue sur la lancée, si on arrive à continuer sur la lancée, ce que je ne crois pas. Mais le transhumanisme, c'est en quelque sorte faire rêver chacun de nous qu'avec la technologie, on pouvait être un individu augmenté. Et ça se ferait au prix d'un asservissement de l'individu à la technologie. Et donc, ça veut dire qu'on n'est plus un être humain libre, indépendant, ayant son environnement mental et physique à proprement parler. Et donc, je pense qu'à trop, justement, vouloir compter sur la technologie, c'est sans doute le bon moyen pour permettre au transhumanisme d'exister. D'exercer son pouvoir, et bien sûr, ce sera un pouvoir qui sera exercé par une petite minorité d'individus. Et donc, pour moi, ce serait une catastrophe.
Je reviens sur cet ouvrage aussi. Donc, le titre, c'est « Nanti-sceptique, devenez écolo ». C'est un peu l'histoire de votre trajectoire, comme vous l'indiquez, puisque vous vous présentez comme nanti devenu écolo aussi vous-même. Qu'est-ce qui vous a amené sur cette notion d'écologie ?
Tout simplement la réflexion et puis mon ouverture à des manifestations, encore une fois, comme les rencontres de l'écologie à Die, qui ont largement contribué. J'ai été un nanti qui a refusé de se poser des questions pendant de nombreuses années. Et puis, en pensant à ses enfants, à ses petits-enfants et à d'autres, j'ai fini par me poser des questions. Et du coup, j'ai enclenché ce processus de nanti qui s'est dit qu'il devait s'engager pour la cause écologique.
Ça, on en avait parlé. C'était par rapport à votre parcours personnel,
oui.
Depuis nanti devenu écolo. Est-ce que, je ne sais pas, expert comptable, vous l'exerciez dans quel domaine vous-même ?
Écoutez, c'était très simple. J'étais vraiment un expert comptable tout à fait ordiné, si on peut s'exprimer ainsi, avec l'esprit d'entreprise, puisque j'ai créé une entreprise de comptabilité qui, je crois, a été bien reconnue sur notre territoire, avec une équipe d'une trentaine de personnes. Donc, en ce sens, j'étais entrepreneur. Et j'étais entrepreneur et j'étais expert comptable, à l'écoute, on va dire à l'écoute, pour accompagner la petite entreprise. Tout simplement, que ce soit une entreprise artisanale, un commerce, une profession libérale. Enfin, le schéma classique de l'expert comptable de terrain en France profonde, hein, si on peut utiliser ces expressions-là.
Une question me vient aussi, c'est par rapport au contexte politique, que ça soit au niveau français par exemple, depuis l'après-guerre jusqu'à nos jours. Je voulais savoir, il y avait cette période des Trente Glorieuses qui a permis de relancer l'économie française, et puis ensuite il y a eu cette première prise de conscience avec le choc pétrolier et le début d'une crise déjà même morale, je dirais. 68 était un prémisse aussi, je voulais savoir, est-ce que vous-même, vous avez senti ce bouleversement de ces convictions d'après-guerre qui sont finalement se sont révélées parfois fallacieuses dans le comportement d'humanité face à l'écologie ?
Alors ça, c'est une très vaste question, hein, mais effectivement, moi, je suis un baby-boomer, hein, puisque l'expression, tout le monde la connaît. Je suis né en 1947. J'ai grandi dans une ambiance où demain était forcément meilleur qu'aujourd'hui. Donc, on était vraiment dans la logique des lendemains qui chantent. On était dans la croissance infinie. Et on ne se posait pas de questions. C'était sympa. Au fond, on était entraîné dans une dynamique comme celle-ci. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que c'était pas si simple que ça. Et somme toute, je dirais, ma génération est probablement celle de mes enfants, c'est-à-dire jusqu'à ceux qui sont nés dans les années 70. Au fond, on a été des générations dorlotées, assez dans un confort matériel, pas de guerre, pas d'inquiétude particulière. Et donc, on voit aujourd'hui que cette vision qui était assez simpliste, eh bien, elle n'est plus pertinente. Et on peut comprendre, par conséquent, le désarroi dans lequel beaucoup de personnes aujourd'hui, de citoyennes, de citoyens, se trouvent. Et pour moi, je trouve tout à fait normal qu'on voit aujourd'hui trois grandes tendances dans les esprits se dessiner, hein, qui sont des tendances évidemment opposées, entre ceux qui voudraient un repli frileux, qui s'inspire plutôt du populisme, mais moi je pense que c'est vain et on ne peut pas se retrancher derrière nos frontières, je n'y crois pas. Je ne crois pas non plus, contrairement à beaucoup de nantis, que solution libérale, toujours sans cesse améliorée, soit la réponse. Non, j'y crois pas. Alors c'est vrai qu'il reste une troisième tendance, un peu hétéroclite, mal organisée, dans laquelle on trouve évidemment le courant écologique et je dirais une bonne partie de la gauche, ou même la gauche peut-être dans son ensemble, où il y a la recherche d'un nouveau système de valeurs, de nouvelles règles du jeu, du vivre ensemble, etc. Je ne suis pas étonné, au fond, que la France soit si écartelée entre ces trois points de vue, comme on le voit dans le résultat des élections. Oui, ça me semble caractériser cette rupture entre quelque chose qui marchait bien dans les années 50, 60, 70, et puis un monde en grand chamboulement, et c'est pas fini.
Le grand problème aussi, c'est ce contexte néolibéral qui amène énormément de monde dans des abysses, des abîmes de la société, au point de ne plus avoir de lumière. Est-ce que ça, c'est un sujet d'intérêt sur vos réflexions aussi ?
Je pense que la logique libérale, qui prétend être la logique progressiste, elle est aveugle, parce qu'on s'aperçoit que, d'une part, comment avoir une croissance infinie dans un monde fini ? Il y a quelque chose d'insensé. Je suis étonné que des gens brillants n'intègrent pas plus cette dimension. Et d'autre part, la logique libérale dans laquelle on est, c'est celle de la compétition, et la compétition, c'est-à-dire chercher à courir toujours plus vite que l'autre à côté qui cherche lui aussi à courir plus vite. Bon. Après, on s'étonne qu'il y ait de plus en plus de gens qui décrochent. Pourtant, pas compliqué à comprendre. Donc, on voit bien que ce modèle, ce modèle, il y a un moment où il conduit à l'effondrement. Hein. Et justement, moi, je ne souhaite pas l'effondrement. Hein. Je le crains, mais je ne le souhaite pas et j'agis pour qu'on l'évite.
– Sous quelle lumière politique sont amenées vos réflexions au sein des alternatives économiques ?–
J'ai pas compris la question.
– Sous quelle lumière politique vous agissez dans vos réflexions ou sur quelle lumière sont situées les réflexions au sein de votre association d'électeurs de l'alternative économique ?–
Clairement, on le voit que quand on est un peu dans le milieu et même ailleurs. Aujourd'hui, il existe toute une population de personnes, de personnalités, de penseurs qui, grosso modo, parce qu'après, c'est bien normal, il y a plein de nuances, mais qui ont en commun de lier la nécessité d'une démarche écologique très forte et celle d'une remise en cause des inégalités croissantes et qui deviennent pour beaucoup intolérables. D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, on ne réglera pas la question écologique en continuant à développer les inégalités. Ce n'est pas possible. Hein.
Un mot qui revient aussi à l'esprit, c'est le mot sacrifice. On l'a entendu récemment dans la bouche de certains ministres d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez, vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce terme ? Est-ce qu'il présage un avenir plutôt sombre ?
Ah ben, c'est clair que pour moi, utiliser le terme sacrifice, c'est inacceptable. Bien sûr qu'on peut le voir comme ça. Si effectivement, on ne peut plus rouler dans des grosses voitures, si on ne peut plus prendre l'avion, si on ne peut plus faire des gueuletons, si on ne peut plus s'acheter les marques à tour de bras, etc. Effectivement, pour les adeptes de ce type de consommation, c'est un sacrifice. Mais au fond, quel sens donner à une vie qui se concentre sur des critères de cette nature ? Hein, c'est pas donc pour moi le terme de sacrifice. Je n'entends pas me laisser piéger par le terme sacrifice. Oui pour une nouvelle vie, oui pour une vie plus simple, vie pour une vie plus solidaire, plus conviviale, plus locale, etc. C'est clair. Mais ce ne sont pas des sacrifices. Et donc je serai là même un petit peu, je vais dire méchant. C'est que, somme toute, en utilisant un terme comme sacrifice, et il y en a bien d'autres, c'est une façon de botter en touche pour ne pas vouloir aborder le sujet au fond.
La prochaine réunion se fera le 28 avril. Comment s'organise-t-elle ? Ça sera par visioconférence, j'imagine. Et comment prendre contact avec vous pour y participer ?
Alors, tout simplement, effectivement, c'est une réunion qui va se faire en visio le 28 avril de 16h à 18h. Alors, simplement, ce que je recommande à vos auditeurs, c'est de taper sur Internet « Association des lecteurs d'alternatives économiques ». Et là, ils arriveront sur le blog de l'association où figure le lien pour s'inscrire. Alors, il faut s'inscrire sur Hello Asso, ce qui est bien pratique parce que ça permet ensuite d'envoyer à chaque personne de façon individualisée une invitation et un lien à participer à la réunion.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur Jean-Louis Vira, d'être venu nous parler donc de cette prochaine assemblée du 28 avril par visioconférence, donc organisée par le laboratoire de transition, en quelque sorte,
entre autres,
et qui est sous l'égide aussi de l'association des lecteurs des alternatives économiques.
Eh bien, c'est moi qui remercie Radio Diwa, parce qu'effectivement, c'est comme ça que nous pouvons faire avancer les choses. Merci beaucoup.
Au revoir.